Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de Mélomanie, le mardi et le mercredi désormais, une nouvelle place dans la grille de Radio Présence pour la diffusion et la rediffusion de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Nouvelle place que nous avons inaugurée la semaine dernière, j'espère que vous l'avez maintenant bien noté sur votre agenda. L'agenda musical, lui, reste toujours chargé en cette fin octobre où les événements musicaux continuent de s'enchaîner à un rythme élevé et ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année sans temps mort. Je pense que personne ne s'en plaindra, d'autant plus qu'il y en a un peu pour tous les goûts et dans tous les genres depuis quelques semaines. Cette émission va d'ailleurs de nouveau illustrer la densité et la variété des propositions musicales du moment. Pour l'animer à mes côtés, j'ai encore le plaisir et l'avantage de recevoir le renfort de mon ami Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Voilà donc notre duo reconstitué une fois de plus pour ce qui va être le 164e numéro de Mélomanie. Nous allons tout de suite aborder sa première partie, celle consacrée à l'actualité musicale la plus récente, avec notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue Serge, ravi d'animer cette émission avec vous. Nous allons d'abord revenir sur le récital qu'a donné jeudi dernier au Théâtre du Capitole la mezzo-soprano Sophie Coche, accompagnée pour l'occasion par le pianiste Bertrand Chamaillou. Elle aurait pu tomber plus mal. Elle a interprété un programme de Lieder et de Mélodie. Vous avez assisté à sa prestation. Alors Serge, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Ah oui, d'abord, rappelons tout de même que c'est une mezzo-soprano qui a beaucoup travaillé avec le Théâtre du Capitole et notamment ses dernières prestations. C'était l'Ariane de l'opéra Ariane et Barbe Bleue de Paul Dukas et elle chantait Kundry dans le Parsifal de Wagner, ce qui n'est pas rien. Donc, on était très heureux de la retrouver et effectivement, comme vous venez de dire, avec le soutien pianistique d'un grand, on peut dire d'un grand maintenant, Bertrand Chamaillou. Alors, je voudrais quand même préciser qu'au début du récital, elle a tenu à dédier cette soirée à celui qu'elle considère comme celui qui lui a donné sa chance à Toulouse, et c'est Nicolas Joël. Donc, elle a dédié son récital à Nicolas Joël. Et puis, elle a chanté plusieurs cycles de mélodies, toutes du XXe siècle. À commencer par Stravinsky, avec ce cycle de trois mélodies, le faune et la bergère. Alors, ce sont des mélodies sur des poèmes érotiques et pastoraux d'Alexandre Pouchkine, mais dans leur version en français, ici. Donc, toute la première partie du récital était d'ailleurs en français. Alors, ce sont des mélodies un peu post-romantique et un peu debussiste, un peu entre les deux, hein, en quelque sorte. Et elle a fait ça avec une voix d'une belle ampleur, donc qui a rendu vraiment un bel hommage à Stravinsky pour ses mélodies de jeunesse, puisqu'il les a composées pendant qu'il était en voyage de noces. Donc, vous voyez, c'est...
D'où peut-être l'aspect érotique.
Eh oui, peut-être bien, oui. Alors ensuite, c'était, on peut dire, du grand classique avec Debussy et Ravel. Debussy, elle a chanté deux des cinq poèmes de Charles Baudelaire, composés sur les poèmes de Charles Baudelaire par Debussy, vraiment très 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 bien, avec une langue bien prononcée, poétique. Et je dois dire que j'ai beaucoup admiré le jeu du piano de Bertrand Chamaillou, qui vraiment avait un toucher d'une poésie magnifique pour ses mélodies de Debussy, avec une moirure incroyable. Et la même chose dans Scheherazade. Alors Scheherazade, bon, c'est un cycle plus connu, hein, effectivement, de Maurice Ravel. Les trois mélodies, Asie, la flûte enchantée et l'indifférent. Et donc, alors, il y a l'exotisme de l'Asie, la douceur de la flûte enchantée, et puis l'érotisme, là aussi, une fois de plus.
Décidément.
Ah oui, de l'indifférent. Hein, donc, trois mélodies qui vraiment ont rempli leur office de poésie. Donc, c'est évident. Ensuite, il y a eu cette seconde partie. Alors, la seconde partie était très différente. Elle était toute consacrée à de la musique j'allais dire allemand maintenant, germanique, puisque le premier cycle était un cycle signé Alban Berg, les Sieben Frühlieder, c'est-à-dire les six leaders de jeunesse que Alban Berg a composés.
Les sept leaders de jeunesse.
Sept leaders de jeunesse, donc composés avant ces grandes œuvres, en quelque sorte, avec quand même la nouvelle technique enseignée par Schoenberg, puisqu'il était encore élève de Schoenberg lorsqu'il les a composées. D'abord, vraiment, félicitons la chanteuse pour son accent allemand. C'est parfait. Hein, c'est...
Ah, elle s'appelle Koch.
Elle s'appelle Koch.
Alsacienne avec des racines allemandes. Donc bon, on a gardé quelque chose.
Ah, tout à fait, oui. Donc c'était vraiment une prononciation parfaite. Et elle s'est très bien intégrée dans ce monde naissant un peu de l'atonalisme, hein, puisqu'il y a quand même cette notion qui apparaît. Et alors moi, j'ai en particulier beaucoup aimé ce grand élan affectif qui caractérise la mélodie qui s'appelle Die Nachtigall, le rossignol. C'est la mélodie que j'aime le plus de ce cycle. Mais c'est un cycle très, très intéressant. Et puis enfin, elle est revenue à une écriture plus traditionnelle en quelque sorte, celle de Richard Strauss, dans quatre de ses leaders, quatre leaders connus, réputés. Il y a d'une part « Ruhe meine Seele », c'est-à-dire « Repose-toi mon âme »,« Schlechtes Wetter », c'est-à-dire « Mauvais temps », et puis « Aller Seelen » et « Befreit ». Donc, vraiment quatre belles mélodies et qu'elle a magnifiquement chantées avec le soutien toujours aussi musical de Bertrand Chamaillou.
Oui, je pense que pour elle, c'était quand même une sacrée chance de chanter accompagnée par Bertrand Chamaillou. Ce n'était pas une première pour les deux.
Non.
Ils s'étaient déjà rencontrés, si on peut dire, sur scène il y a une dizaine d'années. Je ne sais plus à quelle occasion. En tout cas, c'est ce que nous avait dit Christophe Gristy lorsqu'il était venu nous présenter ce récital il y a quelques mois. Nous allons écouter Sophie Koch chanter justement un des leaders de Richard Strauss au programme de son récital de jeudi dernier au Théâtre du Capitole, à Aller Seelen. Aller Seelen, lead de Richard Strauss, chanté par Sophie Koch, un des airs qu'elle a interprété accompagné par Bertrand Chamaillou jeudi dernier au Théâtre du Capitole. Et il y a eu des bis, plusieurs, Serge.
Oui, oui, elle a prolongé l'épisode de Richard Strauss en chantant trois leaders quand même. Habedank, le fameux Habedank, remerciement qu'elle a dédié au public. Cécile, donc, et puis une charmante berceuse qui était la bonne conclusion pour ce récital. Voilà.
Voilà un joli récital et l'on va rapidement retrouver Sophie Koch sur la même scène puisqu'elle va prendre pour la première fois le rôle de Marie dans la nouvelle production de Wolzeck, l'opéra d'Alban Berg, encore lui, du 19 au 25 novembre au Théâtre du Capitole, production mise en scène par Michel Faux, dans laquelle le baryton Stéphane Degout va lui aussi interpréter pour la première fois le rôle-titre de Wolzeck. Nous nous déplaçons maintenant à la Halle aux Grains, où l'Orchestre National du Capitole était en concert samedi, le 23 octobre, sous la direction du chef allemand Cornelius Meister, qui était invité, il me semble, pour la troisième fois à diriger notre ensemble symphonique toulousain. Il y avait également un soliste invité ce soir-là, un pianiste britannique dont on parle de plus en plus, très demandé depuis 2 ou 3 ans sur la scène européenne et même au-delà. Serge, rappelez-nous qui était ce jeune virtuose du clavier venu d'outre-Manche.
Eh bien, c'est le jeune Benjamin Grosvenor, qui est un Britannique et qui avait été découvert, à Toulouse en tout cas, en 2013, lors d'un récital à piano jacobin. Et il avait déjà surpris, étonné et ravi à cette époque-là. Et donc, on était tout heureux de le retrouver et on n'a pas regretté vraiment de revoir ce pianiste que je pense on reverra d'ailleurs.
Oui, alors Benjamin Grosvenor, c'est vraiment un petit génie parce qu'il n'a que 29 ans, mais il est médiatisé depuis son plus jeune âge en Angleterre. Songez qu'en 2003, il a à peine 10 ans, il a remporté 4 compétitions de piano en Grande-Bretagne et l'année suivante, il remportait le BBC Young Musician of the Year, donc en 2004. Vous voyez, c'est vraiment un talent très, très, très précoce.
Très précoce et vraiment avec un jeu très personnel, très particulier. Alors là, il était le soliste du concerto numéro 1 pour piano orchestre de Beethoven, qui en fait a été le deuxième composé par Beethoven, mais qui reste une œuvre de jeunesse de Beethoven.
Et encore avec l'influence de Mozart.
Avec quand même, oui, un petit accent mozartien. Mais c'est un concerto magnifique parce qu'il est lumineux.
Ah, moi, je regrette qu'on ne le joue pas plus souvent,
personnellement. Il est clair, il est beau, il est optimiste. Ce que j'ai beaucoup aimé dans la manière de jouer de Benjamin Grosvenor, c'est la possibilité qu'il a d'établir un dialogue avec les différents pupitres de l'orchestre. Tout le premier mouvement, c'est vraiment des appels et des réponses, des questions, des réponses entre le piano et les pupitres, en particulier de bois, qui, comme on le sait, sont excellents ici à Toulouse. Et donc, vraiment, ce toucher lumineux faisait pétiller un peu son jeu dans ce concerto. Et puis, en particulier, alors, très beau mouvement, du mouvement lent, évidemment, comme toujours. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faisait assez peu de rubato. Si peu que dès qu'il en faisait un, ça avait un impact très fort. Donc, il ne faut pas en faire trop, sinon ça devient un peu superfétatoire.
Mais il a un jeu original, hein. Il a vraiment un jeu original, je trouve.
Et une clarté oui. Du toucher. On entend absolument tout ce qu'il fait. Il ne met pas beaucoup de pédales, c'est très, très clair. Et donc, pour ce qui concerne le rondo final, alors un rondo, on le sait, c'est des séquences couplet-refrain. Et il a fait ça avec une joie, une beauté extraordinaire, toujours pareil, avec un jeu d'échange avec l'orchestre. Donc vraiment un grand moment que ce concerto, qui a été énormément applaudi, au point qu'il est revenu pour donner un bis. Et ce bis, c'était une étude de concert de Franz Liszt, une étude très virtuose, qu'il a joué avec un panache magnifique.
Il vient de faire paraître très récemment justement un CD Liszt chez Decca, qui a été unanimement salué par la critique. Formidable. Voilà donc pour ce concerto numéro 1 de Beethoven qui était en milieu de concert. Oui. Mais avant, il y a une première œuvre. Alors je sais que vous avez énormément apprécié, et moi aussi, parce que c'est un programme très Mittel-Europa, très Empire austro-hongrois.
Ben absolument, le concerto de Beethoven était coincé, si je puis dire, entre deux œuvres tchèques. Donc, et la première étant une suite qui est tiré de l'opéra de Leo Janáček, qui est La petite renarde rusée.
Rien que le titre, déjà.
Ah ben, c'est magnifique. Enfin, on a l'impression que c'est un conte merveilleux, cet opéra, et tout à fait panthéiste. Et on a l'impression que Janáček a suivi La Fontaine en traitant des animaux pour instruire les hommes, et comme l'avait dit La Fontaine. Donc, cette suite, il faut préciser, à partir de l'opéra, elle a en fait été orchestrée par le grand chef d'orchestre tchèque Václav Talíč. Et elle a, en 1937, alors que l'opéra date du début des années 20, et tout cela, il l'a fait à partir des intermèdes symphoniques de l'opéra. Et ça a été en plus révisé plus tard par un autre Václav Smetáček. Donc c'est une œuvre très élaborée, coloré, magnifique, et que Cornelius Maestre a dirigé avec, on peut dire, maîtrise, pour traduire un peu.
Je crois qu'il était vraiment dans son élément, là, avec
oui,
le programme en entier, notamment dans cette œuvre.
Complètement. Et donc c'était un peu, moi j'ai trouvé que c'était une musique des images, on voyait des images défiler pendant ces quelques quart d'heure, 20 minutes.
Musique très évocatrice.
De musique, de grande musique, de belle musique. Et on se réjouit que cette année, Janáček sera au programme de la saison du Théâtre du Capitole. Et on pourra enfin réécouter ce qu'on avait déjà écouté. D'ailleurs, on avait déjà programmé, et le directeur et son prédécesseur, d'ailleurs, avaient déjà programmé des opéras de Janáček.
Ah, ce sera Yenoufa.
Ça sera Yenoufa, oui. Donc, cette fois. Donc,
au printemps.
Très bien. Oui, on avait eu aussi Katia Kabanova à une
oui,
époque.
Oui, absolument.
Bon, donc voilà. Voilà pour
cette
ouverture.
Et puis, pour terminer, symphonie.
Une symphonie.
Et une magnifique symphonie.
Magnifique symphonie de Dvorak. Non pas la 9e symphonie du Nouveau Monde, mais celle qui l'a précédée, la 8e en sol majeur, qui est sous-titrée Tchécoslovaque. Alors pourquoi Tchécoslovaque? Eh bien parce qu'elle s'inspire beaucoup de mélodies populaires, hein, qui la nourrissent en quelque sorte. Là aussi, j'ai trouvé que Cornelius Maestre a souligné un peu le caractère de poème symphonique de l'œuvre, descriptive. On a l'impression de se promener dans les forêts de l'Est de l'Europe, partition là aussi lumineuse, avec des chants d'oiseaux, avec de très nombreuses interventions, des flûtes et des clarinettes d'ailleurs, et puis des fanfares avec les cuivres, des marches. Donc c'est vraiment une œuvre qui bruisse en quelque sorte de vitalité et d'images colorées. Alors, dans l'adagio, bon, c'est une direction à la fois acérée, précise, passionnée du chef, hein. Et puis, alors, l'allegretto gracioso, qui est le scherzo, le troisième mouvement, est un mouvement magnifique, avec une espèce de lyrisme, une évocation, là aussi, de la forêt, jusqu'au final, qui est un allegro ma non troppo. Et alors, là, je voudrais quand même souligner qu'il s'ouvre sur une impressionnante affirmation des deux trompettes à l'unisson. Et chapeau aux deux trompettistes de l'orchestre, c'était un vrai unisson. Il n'y avait pas le moindre écart,
C'était facile de se planter, si je peux dire, sur
très
un coup
facile,
pareil.
Très facile. Et donc, c'était magnifique. Voilà, donc, somptueuse conclusion, hein, qui était, on pourrait dire, aussi sauvage, coordonnée, et les dernières mesures mettent vraiment le feu. Hein.
Bah d'ailleurs, il y a eu des applaudissements nourris
dès la fin de
ce concert et de cette œuvre, y compris pour Cornelius Maestre, par les musiciens de l'orchestre.
Exactement. Alors, lui a fait lever tous les pupitres qui ont contribué, et puis il a été applaudi, effectivement, par ses musiciens, qui, lorsqu'il, à la fin, leur a demandé de se lever, n'ont pas voulu se lever, ont voulu que ce soit lui qui salue.
Voilà, très belle soirée très musicale. Et donc, Benjamin Grosvenor a lui aussi été très applaudi après sa prestation. Alors, nous allons encore lui demander un bis, mais dans cette émission, cette fois-ci, on l'écoute dans une exécution du troisième mouvement Rondo Allegro Scherzando du concerto numéro 1 de Beethoven.
Thank you.
Le troisième mouvement, Rondo Allegro Scherzando du concerto numéro 1 de Beethoven, interprété par Benjamin Grosvenor, un pianiste qu'on reverra avec grand plaisir à Toulouse. Notez que le prochain concert de l'Orchestre National du Capitole est donné dès samedi prochain, le 30 octobre donc. Nous allons vous le présenter en détail tout à l'heure, en seconde partie d'émission, dans notre rubrique Agenda. Et il nous reste un événement récent sur lequel revenir, très récent puisqu'il a eu lieu lundi soir, à la Halograin encore, dans le cadre de la saison des grands interprètes, qui avait programmé une formation qu'elle reçoit régulièrement depuis des années, l'ensemble Pygmalion de Raphaël Pichon, qui accompagnait à cette occasion la soprano Sabine Devielle. C'était pour un programme Bach Handel, deux cantates pour le premier et d'air d'opéra pour le second. Alors Serge, vous y étiez, vous vous êtes régalé apparemment.
Ah, absolument. C'était vraiment, d'abord, on connaît les qualités vocales et musicales de Sabine Devielle, qui est une chanteuse extraordinaire, hein, magnifique. Et là, l'autre grand intérêt de la soirée, sinon la qualité des musiciens, qui jouent évidemment sur instruments anciens, c'est les liens inattendus que Raphaël Pichon a tissé entre les deux grands compositeurs de l'époque baroque que sont Bach et Handel. Alors, a priori, on a de Bach et Handel des idées, une idée différente, hein. Bach, c'est le sacré, c'est le sérieux. Handel, c'est plus frivole en quelque sorte, hein. Eh bien là, pas du tout. Il a vraiment mis en évidence des liens inattendus entre les deux compositeurs dans la manière de composer son programme, avec des correspondances tout à fait étonnantes, avec une imagination pour composer ce programme comme une succession de pièces diverses qui construisent une œuvre. Donc le programme, c'est une œuvre en quelque sorte. Et donc il y a eu effectivement deux cantates, l'une avec des extraits, l'autre intégrale. Et puis c'était borné en quelque sorte, scandé par des airs à la fois d'oratorio ou d'opéra de Handel, mais qui s'intégraient parfaitement, au point que quelquefois, Il enchaînait sans interruption un air de Handel et une cantate de Bach. Et ça ne paraissait pas bizarre, ça paraissait tout à fait naturel. Alors, il faut reconnaître quand même que le concert s'ouvrait sur une aria extraite d'Il Triomfo del Tempo e del Disinganno de oratorio de Handel, qui s'appelle Un pensiero nemico di pace, où là, c'était un feu d'artifice. Elle est partie vraiment sur une virtuosité complètement inouïe, une vocalisation d'une perfection inimaginable. Donc déjà, ça donnait une idée du niveau vocal de ce concert. Et puis elle a eu deux autres interventions dans le monde vocal de Handel, une aria extraite de Giulio Cesare in Egitto, et puis également un deuxième emprunt au même oratorio, le triomphe du temps
et
des ingannos, c'est la désillusion, et l'aria tu del ciel ministro eletto. Et donc et là elle a terminé la soirée sur cet air de Handel, qui est un air complètement évanescent, et c'était un rêve musical. Alors c'était tellement fort que le silence s'est établi dans la salle. Il a fallu attendre vraiment quelques secondes avant que les applaudissements, alors là, des applaudissements très, très, très intenses, nourris, se déclenchent. Mais il a fallu redescendre sur terre, en quelque sorte. Alors ça, c'était pour les Handel.
Ça, c'est toujours un signe quand ça se finit.
Ah oui,
ça.
Tout à fait, oui, c'est un signe. Et ensuite, elle a chanté une cantate intégralement. C'est « Mein Herz schwimmt im Blut », c'est-à-dire « Mon cœur nage dans le sang, en quelque sorte, hein, et vraiment avec une émotion, une pureté vocale, et sans excès de sentimentalisme, avec une pureté, une beauté magnifique, absolument magnifique. Et cette cantate subit en quelque sorte une évolution depuis la douleur la plus intense jusqu'à la sérénité finale de l'aria finale, parce que elle ne s'achève pas sur un choral cette fois, mais sur une aria. Wie freudig ist mein Herz, c'est-à-dire comme mon cœur est heureux. Oui, évidemment, ça change avec le début, le cœur sanglant. Donc, la deuxième cantate qu'elle a abordée parce qu'elle n'en a chanté que quatre extraits, c'est Ich habe genug, donc je suis comblé. Alors ça, bon, c'est une cantate, on peut dire, l'une des plus émouvantes.
Une des plus célèbres aussi.
Des plus célèbres, mais on voit
oui,
pourquoi.
Hein.
Et là, dans cette cantate, elle était accompagnée par la flûtiste de l'orchestre, flûte traversière, traverso en quelque sorte, magnifique. Hein. Ça faisait un duo entre la voix de Sabine Devieille et la flûtiste, c'était un peu là aussi un rêve. Et elle a enchaîné ces extraits de cantate d'Ich habe genug avec cet air final, ce rêve final, et ça marchait parfaitement, et personne n'avait envie d'applaudir. Donc, ça a été un grand moment, là aussi.
Le temps qui reste suspendu après l'interprétation d'une œuvre, eh bien, nous allons maintenant pouvoir entendre Sabine Devielle et l'ensemble Pygmalion, sous la direction de Raphaël Pichon, bien sûr, dans une interprétation de la cantate BWV 199 de Jean-Sébastien Bach, celle que vous évoquiez il y a quelques instants, « Meine Herz schwimmt im Blut ». L'aria numéro 2 de la cantate BWV 199 de Jean-Sébastien Bach, Mein Herz schwimmt im Blut, interprétée par Sabine Devielle et l'ensemble Pygmalion sous la direction de Raphaël Pichon. Prochain concert de la saison des grands interprètes, vendredi 19 novembre à 20h à la Halle au Grain, qui va accueillir ce soir-là l'Orchestre National de l'Opéra de Paris, dirigé par Gustavo Dudamel, avec un programme d'œuvres de Ravel, Mozart et Berlioz. C'est terminé pour cette première partie d'émission. Petite virgule musicale avant de nous retrouver dans quelques secondes avec Serge Chosy pour l'agenda de Mélomanie. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie avec Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Je vais le commencer en disant quelques mots sur une soirée musicale et gourmande que propose le Festival de Rocamadour ce mercredi 28 octobre à 19h30. Ça se passe dans le chai du château de Mercues, près de Cahors. Et oui, le Festival de Rocamadour, ce n'est pas seulement l'été, il y a aussi des concerts pendant la saison, pendant l'année. L'ensemble vocal La Sportelle, l'ensemble en résidence au festival, va y donner un programme intitulé « Dégustation croisée ». Alors, de quoi s'agit-il précisément ? Eh bien, de croiser les plaisirs des papilles et des oreilles lors d'une soirée où l'on goûte à la fois les meilleurs vins produits sur le domaine, les plats de Julien Poiseaux, le chef étoilé du relais Château de Mercues, et des pièces vocales sacrées interprétées entre chaque dégustation par les quatre chanteurs de la Sportelle. Les dégustations de vins sont présentées par Bertrand Vigouroux, le propriétaire du château et du domaine viticole. C'est vraiment un moment privilégié pour amateurs de belles et bonnes choses. Évidemment, la jauge est limitée, donc il faut réserver à l'avance vos places à cette soirée en vous connectant au site du festival www.rocamadourfestival.com. Pour vous faire découvrir le répertoire et les voix de l'ensemble de la Sportelle, voici leur version de Christus Factus Est, une pièce composée par Anton Bruckner. Le très beau Christus Factus Est, œuvre d'Anton Bruckner, interprété ici par l'ensemble La Sportelle, qui donne donc son concert dégustation croisée au château de Mercues ce jeudi 28 octobre à partir de 19h30, une vraie soirée de gala organisée par le Festival de Rocamadour. Et deux jours plus tard, samedi 30 octobre, nous retrouvons l'Orchestre National du Capitole à la Halle aux Grains pour un concert qui va commencer à 18h, je dis bien 18h, pas à 20h, et qui fait partie du cycle des rendez-vous avec Jean-François Zigel. Le très médiatique pianiste et vulgarisateur y retrouve les musiciens du Capitole dirigés à cette occasion par une femme, une toute jeune chef italienne, Serge, et qu'on connaît déjà à Toulouse.
Mais oui, elle était déjà venue diriger une happy hour, donc ses concerts du samedi après-midi, samedi en fin d'après-midi, donc, il y a quelques semaines, pendant lequel elle avait d'ailleurs dirigé en particulier le concerto pour trompette de Hummel, joué en soliste par Hugo Blacher, le soliste de l'orchestre, l'un des deux solistes de l'Orchestre National du Capitole. Et donc là, elle se retrouve avec Jean-François Zigel pour un programme qui s'appelle « Un Américain à Paris, un Français à New York ». Bon, donc on n'est pas étonné d'entendre comme première œuvre « Un Américain à Paris » de George Gershwin, évidemment. Bon, ça, c'est évident. Ensuite, on aura l'œuvre de Leonard Bernstein qui s'appelle « On the Town ». donc, dans la ville. Et puis, alors ça c'est beaucoup plus rare, le concerto pour piano numéro 1 de Philip Glass, Phil Glass, donc ce grand compositeur, comment dire, minimaliste.
Oui, c'est ainsi qu'il est classé dans la famille des minimalistes dits américains, parce que
américain,
ce sont
oui.
des américains pour la plupart. Hein.
Voilà, minimaliste ou répétitif quelquefois.
Oui, voilà, on dit musique répétitive, minimaliste, bon.
Donc c'est très bien, hein, on va entendre enfin un concerto de Phil Glass. Je ne pense pas qu'on l'ait déjà donné à Toulouse.
En général, on entend plutôt des pièces pour piano seul de oui. Philip Glass, oui. parce que c'est son instrument de prédilection. Mais effectivement, les concertos pour piano de Phil Glass, je ne les connais pas. Moi,
moi non plus.
Donc, je pense qu'il y en a plusieurs.
Sûrement.
C'est pas le seul, hein, parce qu'il porte le numéro 1, ça veut dire qu'il y a un 2 et au moins un 3. Il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas.
Voilà,
D'autant plus qu'il est toujours vivant, donc peut-être qu'il en compose encore, je n'en sais rien.
Oui,
et voilà,
c'est
ce sera non pas le seul compositeur vivant au programme, parce qu'il y en a
qui a pour nom Jean-François Zizel.
Oui, il sera même présent, lui. Hein.
Donc,
on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Et il dirigera une œuvre qui s'appelle La Ville, donc encore
C'est la thématique du programme,
oui,
La Ville.
Oui, bien sûr. Ça fait un peu écho avec l'œuvre de Leonard Bernstein. Donc,
voilà, On the Town pour Bernstein, La Ville pour Zizel, Un Américain à Paris pour Gershwin. Voilà, là, on a un peu fait le tour entre Paris, New York, entre la France et les États-Unis.
Très bien, très très bien. Donc, c'est vraiment un programme original.
Mais ce qui sera dirigé par une Italienne.
Et oui, donc c'est très bien.
Jeune chef italienne qui apparemment plaît beaucoup aux musiciens du Capitole, puisqu'il l'accueille de nouveau. Alors nous allons faire un petit rappel pour ceux qui auraient oublié à quoi ressemble la musique de Gershwin avec le début d'Un Américain à Paris, la célèbre pièce symphonique que lui avait inspiré son séjour dans la capitale française au cours des années 1920. Extrait d'Un Américain à Paris de George Gershwin, une version du Los Angeles Orchestra dirigée justement par Gustavo Dudamel, le directeur musical de cet orchestre très prestigieux. Mais ce samedi 30 octobre, c'est bien Neil Venditti qui sera à la tête de l'Orchestre National du Capitole pour l'interpréter lors du concert que donne l'ensemble symphonique toulousain avec Jean-François Zigel à 18h à la Halle aux Grains. Direction maintenant l'escale de Tournefeuille pour les prochains concerts mensuels de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, mardi 2 et mercredi 3 novembre à 18h30. Il y a toujours un thème au programme de ces concerts, Serge, et pour ceux du mois de novembre, c'est la musique descriptive que vous évoquiez tout à l'heure, et elle va être illustrée par une œuvre très connue du grand public, Le Carnaval des Animaux.
Oui, et pas seulement. Alors pour le Carnaval des Animaux, il faut quand même se souvenir qu'il est sous-titré « Plaisanterie musicale », commise par Saint-Saëns en 1866 et dont il n'était pas très fier. Il ne voulait pas qu'on en parle trop, il avait peur qu'on ne le prenne plus pour le compositeur sérieux qu'il était. Donc il a d'abord diffusé le signe, extrait, et ensuite il a donné l'autorisation de...
C'est vrai qu'effectivement il ne s'en vantait pas trop au départ d'avoir composé cette œuvre, oui. qui est aujourd'hui la plus célèbre parmi celles qu'il a créées.
En plus, une œuvre adorable, une belle œuvre bien écrite, pour laquelle, évidemment, dans laquelle on parle d'animaux, lion, poule, coq, tortue, éléphant, kangourou, et même pianiste. Les pianistes sont considérés comme des animaux dans cette pièce-là.
Alors c'est peut-être bien d'expliquer ce qu'on appelle la musique descriptive. Ça l'illustre très bien, cette œuvre.
Ah oui, tout à fait, puisque vraiment, il essaie d'imiter complètement les cris des animaux en question.
Les chants d'oiseaux, la musique descriptive, c'est qu'on imite en gros la nature, les animaux, les éléments... par le biais d'éléments musicaux, parfois extra-musicaux, peut y avoir directement des chants d'oiseaux, c'est ce que faisait Messiaen, par exemple.
Bien sûr, mais il imite pas simplement les cris des animaux, mais en même temps leur allure, c'est le cas du cygne. Il n'y a pas le cri du cygne.
Les mouvements du cygne,
mais
la grâce,
voilà. Donc, alors, c'est une belle chose. Alors, cette œuvre terminera en fait le concert, qui débute avec une œuvre de Luigi Boccherini, qui est le plus italien des Espagnols, ou le plus espagnol des Italiens.
Oui, parce qu'il a fait sa carrière beaucoup à la cour royale de Madrid.
Mais il est italien, évidemment. Et donc, ce que joueront les musiciens de l'orchestre, c'est la Nuit de garde à Madrid. Une très belle œuvre, très colorée, très belle. Ensuite, il y aura, dans le même esprit, la pièce La poule de Jean-Philippe Rameau. Alors là... C'est une imitation complète du Gallinacé.
Je parlais de cour royale de Madrid, mais là, c'est royal comme imitation, vraiment.
Oui, exactement. Et puis enfin, une œuvre qui s'appelle Le Bestiaire et qui est signée d'un compositeur du XVIIe, Heinrich Biber, qui est plus célèbre pour ses fameuses sonates du rosaire, des sonates pour violon seul, qu'il a écrite à l'image un peu de ce que faisait Bach dans ses partitas et ses sonates pour violon seul.
Alors pour ceux qui se poseraient la question, il n'y a aucun lien de parenté entre Heinrich Biber et Justin Bieber, vraiment aucun.
Sait-on jamais?
Alors peut-être, après tout, on n'en sait rien. Bon, compositeur austro-tchèque, la toute fin du XVIIe, c'est...
Exactement.
C'est le milieu du baroque.
Il est mort en 1704, donc...
C'est vraiment le milieu c'est bien avant Jean-Sébastien Bach, en fait.
Oui.
Donc, c'est pas un compositeur qu'on joue très souvent, quand même.
Non,
et
c'est vrai.
Et en tout cas, pas cette œuvre-là.
Non, absolument pas. Les seules œuvres que j'ai entendues en concert, ce sont justement ces fameuses sonates pour violon seul.
Voilà donc pour ce programme. Alors précisons que le Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns va être interprété dans la version pour cordes arrangée par Gilles Colliard,
directeur de l'Orchestre
de Chambre de Toulouse.
Oui, puisque la version originale n'est pas écrite pour cordes. Donc là, il s'agira donc de la version transcrite par Gilles Colliard. N'oublions pas que Gilles Colliard est un compositeur, excellent compositeur, un excellent violoniste évidemment, et un chef d'orchestre. Donc il a... trois flèches à son arc, en quelque sorte, trois cordes à son arc.
Et il va bien être présent pour diriger ses concerts, pour diriger ses musiciens. Voici un extrait du Carnaval des Animaux de Saint-Saëns, dans la version pour cordes arrangée par Gilles Colliard et interprétée ici par l'Orchestre de Chambre de Toulouse, le final. Thank you. Formidable finale du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns dans la version pour cordes arrangée par Gilles Colliard et interprétée par l'Orchestre de Chambre de Toulouse sous sa direction, une des œuvres au programme des concerts que donne ce même Orchestre de Chambre à l'Escale de Tournefeuille, c'est mardi 2 et mercredi 3 novembre à 18h30, c'est 18h30, pas 20h30. Notez que ce programme va être redonné à Saint-Pierre-des-Cuisines par les mêmes les 22 et 23 novembre, cette fois-ci à 20h30. Dernier rendez-vous à noter sur votre agenda, le midi du Capitole de la chanteuse Anaïck Morel, accompagnée par le pianiste David Violi, jeudi 4 novembre à midi et demi, avec Sophie Koch, Anaïck Morel et l'autre mezzo-soprano dans la nouvelle production de Wojzeck au Théâtre du Capitole, où elle va interpréter le rôle de Margaret. En attendant, elle donne donc ce récital le 4 novembre. Quel programme va-t-elle chanter, Serge ?
Un programme très riche. Alors, elle est accompagnée par le pianiste David Violi et elle chantera d'abord eh bien, le Scheherazade de Maurice Ravel, qu'on a entendu il n'y a pas très longtemps par Sophie Koch. Bah, c'est bien.
On va pouvoir faire un essai comparatif.
Voilà, exactement. En plus, c'est une œuvre tellement belle et poétique.
Oui, personne ne s'en plaindra.
Qu'on ne s'en plaindra pas. Ensuite, des mélodies d'Henri Duparc, avec les mélodies, la mélodie célèbre qui est l'invitation au voyage, Fidilé et la chanson triste. Et puis ensuite, un cycle de Francis Poulenc sur les poèmes de Guillaume Apollinaire, qu'il a baptisé Banalité, avec chanson d'Orkénise.
C'est bien mal nommé, parce que c'est pas banal du tout en plus.
Pas du tout. Chanson d'Orkénise, Hôtel, Fagne de Wallonie, Voyage à Paris et Sanglots. Voilà les cinq mélodies qui constituent ce cycle Banalité. Et puis, elle finira le concert avec des airs de Kurt Weill, le grand Kurt Weill.
De l'opéra de Katsu.
Voilà, compagnon de Bertolt Brecht. Donc, avec Je ne t'aime pas. Et puis tout bas, Speak Low. Et enfin, Youkali. Donc, toujours.
Oui, alors, ça, c'est célèbre, ça.
Oui.
C'est
donc,
célèbre, c'est très drôle.
Donc, c'est un beau programme, très varié, très ouvert, que nous présente quand même
une excellente. Il faut qu'on en parle un peu d'Anaïck Morel, parce qu'on l'a vu plusieurs fois ces dernières années sur la scène du théâtre du Capitole, dans des opéras. Voilà. Et moi, je la trouve formidable, cette chanteuse.
Formidable. Elle est venue chanter ici le compositeur dans l'opéra Ariane Anaxos de Richard Strauss, et elle est venue chanter le rôle de Riclet dans le Pénélope de Gabriel Fauré. Et tout de même, des grandes œuvres. Hein, donc, on est très heureux de l'entendre en récital.
Voilà, chanteuse originaire de Lyon, où elle a commencé sa formation musicale, qui est jeune encore, hein, et qui manifestement est dans les petits papiers de Christophe Gristy, le directeur artistique du Théâtre du Capitole. Et là aussi, je vais reprendre l'expression, personne ne s'en plaindra, parce qu'à chaque fois, elle est excellente. Je n'ai pas de mélodie de Ravel, Poulenc ou Duparc chantée par Anaïck Morel à vous proposer pour faire entendre sa voix, mais j'en ai une en revanche de Charles Quéclin, autre grand compositeur français de cette période. On écoute la jeune mezzo-soprano française interpréter L'hiver.
Thank you.
L'hiver, mélodie de Charles Quéclin, chantée par Annaïck Morel, qui va donc donner son Midi du Capitole, accompagné par le pianiste David Violi, jeudi 4 novembre à 12h30, avec un programme Ravel du Parc Poulenc-Kurtweil. Renseignements, réservations et achats des billets en ligne sur le site www.theatredukapitole.fr. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci beaucoup à Serge Chosy de l'avoir co-animé avec moi. Vous savez que c'est toujours un plaisir, Serge, de présenter cette émission en votre compagnie.
Merci.
Avant de rendre l'antenne, je rappelle le concert dégustation croisée proposé par l'ensemble La Sportelle, jeudi 28 octobre à 19h30. Au château de Mercues, près de Cahors. Il faut impérativement réserver et acheter vos places en ligne sur le site du Festival de Rocamadour pour pouvoir y participer. www.rocamadourfestival.com. Je rappelle aussi le concert de l'Orchestre National du Capitole ce samedi 30 octobre à 18h avec Jean-François Zigel à la Lograin, avec un programme essentiellement américain d'œuvres de Gershwin, Bernstein et Philip Glass, et aussi une pièce de Jean-François Zigel lui-même. Renseignements, réservations et achats des places en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. Et enfin, pour les concerts de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, mardi 2 et mercredi 3 novembre à 18h30 à l'Escale de Tournefeuille, c'est sur le site www.orchestredechambredetoulouse.fr qu'il faut réserver et acheter vos billets en ligne. Tous mes remerciements également à Christophe Aubry pour la réalisation de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence comme d'habitude. Notez de nouveau que Mélomanie est désormais diffusée les mardis à 19h ainsi que les mercredis à midi. Merci de nous être toujours fidèles et très bonne semaine musicale à tous.